et bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est pile 13h30 ici à Paris, à Kinshasa, 15h30 à Addis Abeba. Je vous passe le relais à Nicolas Brousse pour Afrique Midi. Bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Nous consacrerons une grande partie de cette édition à la situation dans l'est de la RDC où l'AFC M23, appuyé par les militaires rwandais, progresse dans le sud Kivu. Des éléments se trouvent dans Bukavu. Vous entendrez notamment le témoignage d'un habitant de la capitale provinciale. La RDC, c'est l'un des gros dossiers discutés au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Un sommet qui doit aussi aboutir à l'élection du nouveau président de la commission de l'UA, le second mandat de Moussa Faki Mahamat arrivant à expiration. Nous serons en direct de la capitale éthiopienne où l'on sent quelques tensions. À suivre également la préoccupation du gouvernement burkinabé suite à la multiplication des messages de haine en ligne, l'agacement des autorités du Nigeria après un visa refusé par le Canada pour la venue du chef des armées. Et puis du football, la reprise du championnat de première division ardemment souhaitée par les clubs RD congolais. Malgré le contexte sécuritaire, les matchs reprennent ce samedi. Afrique Midi, le grand journal Afrique. Bienvenue, on tourne ensemble la première page. Et nous allons tout de suite faire le point sur la situation dans l'est de la RDC. Zoom sur le sud Kivu, où progresse le groupe AFC M23 associé aux militaires rwandais. Patient Ligodi nous a rejoint en studio. Patient, à 14h31 de Bukavu, après avoir pris le contrôle de l'aéroport et des zones avoisinantes, les combattants soutenus par l'armée rwandaise sont désormais signalés dans la capitale provinciale même. Ce matin, patient, la ville est plongée dans l'incertitude. Ses habitants vivent dans la peur.
Toujours des tirs sporadiques dans plusieurs quartiers de Bukavu, à Kadutu et à Mungu. Des détonations ont encore été entendues ce matin. Quelques scènes de pillage ont également été signalées, notamment autour du grand marché des Kadutu, où une partie des installations a été incendiée selon des témoins. Dans différents endroits de la ville, des habitants affirment avoir aperçu des militaires de forces armées de la RDC, notamment entre le pont Mwandi, la place de l'Indépendance et d'autres axes. Là, une présence qui entretient l'incertitude sur le contrôle effectif de la ville. Au centre ville, la situation reste confuse, un calme précaire règne, mais la circulation est totalement paralysée. Aucune voiture, aucune moto dans les rues. La ville tourne au ralenti. Ses habitants restent pour la plupart tirés chez eux. À la frontière, aucun agent congolais visible à Ruzizi 1. De l'autre côté, au Rwanda, les activités fonctionnent normalement, mais le passage était très limité ce matin. Seules quelques personnes ont traversé dans les deux sens.
Dossier suivi ce jour par Patient Ligodi. Amira Swilem a pu joindre ce matin l'un des habitants de la capitale provinciale, Olivier Kiriza Namuguka. Il coordonne le réseau des radios et télévisions communautaires du Sud Kivu, mais il peine lui-même à savoir exactement ce qu'il se passe dans sa ville.
Depuis hier soir, nous sommes enfermés dans nos maisons. Nous entendons des crépitements de balles, on tire par-ci, par-là. Et de par les quelques conversations qu'on a pu faire avec les frères et les amis qui sont dans la commune mère de Kadutu, ils nous parlent de certaines scènes de pillage. Hier, au cours de la journée, on a vu les militaires en train de quitter la ville et prendre une direction vers l'ouest de la ville. Et c'est comme ça que vers la soirée, on s'est rendu compte qu'au niveau de la ville, il n'y avait plus de policiers, il n'y avait plus de militaires. Mais ça nous étonne qu'on entende quand même des crépitements par-ci, par-là. La situation, elle est confuse, on ne sait pas qui contrôle la ville. Ce que nous attendons, c'est de savoir en principe la situation, elle est comment. Parce que normalement, ceux-là qui peuvent peut-être s'approvisionner ou ceux-là qui peuvent chercher de l'eau ou chercher quelque chose, on voudrait savoir exactement la situation, elle est comment, qui contrôle. C'est vraiment ça la peur que nous avons.
Difficile de savoir exactement ce qu'il se passe, nous dit cet habitant. Une chose est sûre, ces affrontements entraînent une dégradation catastrophique de la situation humanitaire dans l'est de la RDC. L'alerte est donnée par Oxfam, car en plus de la destruction des sites de déplacement de Goma dans le nord Kivu, dans lesquels l'ONG travaillait pour aider ceux qui s'y réfugiaient, viennent s'ajouter les mouvements de population fuyant désormais les combats dans la province voisine du sud Kivu. Écoutez le tableau dressé par Samuel Garouko, il est gestionnaire des programmes humanitaires pour Oxfam à Goma.
Par exemple, ceux qui se trouvent autour de Sake, de Minova, n'ont pas des infrastructures d'eau. Oxfam est préoccupé par la probable flambée de choléra, soulignant aussi que ces déplacés, ils ont perdu leur patrimoine, ils ont perdu tout ce qui peut leur servir de commencer la vie. En plus de cela, on assiste encore à de nouveaux déplacements des gens de Kabare, de Karehe, de Katana, vers les différents coins de Bukavu et des îles du lac Kivu. Tous ces événements se sont passés avec une coïncidence de la suspension de l'aide des États-Unis. Et avec tout ça, les acteurs humanitaires se retrouvent dans les capacités et l'impossibilité d'assister à temps ces familles. On appelle à tous les donateurs de tourner les yeux pour ces populations qui sont souffrantes. Beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui ont besoin de l'assistance. Il y a des millions de gens qui peuvent même arriver à une situation très catastrophique si rien n'est fait.
Des propos recueillis par Amélie Tullet. Sur le plan politique, Félix Tshisekedi a réitéré hier à Munich en Allemagne sa décision de ne pas dialoguer avec l'AFC M23. Pour le chef de l'État, ce groupe armé n'est que, je cite, un paravent que le Rwanda met en avant, mais derrière c'est bien l'armée rwandaise qui mène les combats. Le président RD Congolais est allé plus loin, il accuse directement son prédécesseur Joseph Kabila d'être impliqué dans l'opposition armée. Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila, mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Des propos présidentiels qui font évidemment réagir ce matin le camp de l'ancien chef de l'État. Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, le parti de Joseph Kabila.
Ce qu'on a suivi comme interview en Allemagne, mais c'est quand même surprenant que sa cible soit tout le temps pour justifier son incompétence, sa faiblesse pour diriger l'armée, que ce soit l'ancien président de la République, alors que tout le monde sait que toutes les faiblesses que connaît cette armée, c'est de ses fautes, c'est de ses accords qu'il a eu avec les M23 qui étaient défaits par Kabila, qu'il a eu avec l'Ouganda lorsqu'il prend l'accord de mutualisation de forces avec les UPDF. Alors qu'entre-temps, les FARDC apparemment, son commandement pose problème. Ça, c'est lui. Ça, ce n'est pas Kabila. Comment il peut mettre tout ça à la tête de l'ancien président de la République qui lui a tout laissé? Il lui a laissé l'armée, il lui a laissé les finances, toutes les institutions, la diplomatie, c'est lui seul. Lorsqu'il est en train d'engager notre pays dans les accords, c'est lui seul. Lorsque le processus de Luanda échoue, c'est lui et sa diplomatie défaillante.
Et l'Union européenne, par un message de son porte-parole aux affaires étrangères, dit examiner en urgence toutes les options, s'inquiétant, je le cite, des informations rapportant que les forces du M23, soutenues par le Rwanda, ont pris le contrôle de l'aéroport de Kavumu et sont entrées dans Bukavu, ignorant les appels internationaux à un cessez-le-feu. Message ce matin de Anouar El Hanouni à lire sur le réseau X. Le secrétaire général de l'ONU vient lui de déclarer qu'il faut éviter à tout prix une escalade régionale. Message d'Antonio Guterres à l'ouverture du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. En l'absence du président RD congolais qui a annulé sa participation, Félix Tshisekedi est représenté par sa première ministre. Mais ce matin, plusieurs membres de la délégation congolaise accrédité pour le sommet, présent donc à Addis Abeba, ont été empêchés de quitter leurs hôtels retenus par les services de sécurité éthiopiens. Florence Maurice, vous êtes sur place, envoyée spéciale des RFI. Florence, quelle est la situation ce midi?
Alors la tension semble être un peu retombée, mais les délégations sont toujours bloquées. Le dispositif de sécurité éthiopien a été allégé, mais les militaires continuent de surveiller nos mouvements, m'expliquait à l'instant une source au sein de la délégation congolaise. C'est d'abord l'équipe de communication de la présidence qui a été bloquée tôt ce matin. L'armée éthiopienne a empêché son minibus de quitter l'hôtel où il se trouvait pour se rendre sur le site du sommet. L'ambassadeur de RDC à Addis Abeba est venu sur place. Il a protesté auprès des autorités éthiopiennes. Au total, plus d'une vingtaine de délégués congolais seraient concernés, répartis dans plusieurs hôtels, tous dûment accrédités. C'est de la discrimination envers notre pays, proteste une source diplomatique congolaise. Les autorités éthiopiennes n'ont pas donné d'explication officielle. Selon nos informations, Addis Abeba accuserait la RDC d'avoir tenté d'organiser une manifestation en marge du sommet, ce que dément la délégation. Nous ne sommes pas là pour manifester, mais pour travailler, répond la communication présidentielle, qui se dit choquée par le traitement qui lui est réservé.
Florence Maurice, envoyée spéciale en direct d'Addis Abeba. Clotilde Hazard, vous êtes la correspondante des RFI également en direct de la capitale éthiopienne. Si les pays membres de l'Union africaine sont réunis ce week-end, c'est aussi pour désigner le successeur de Moussa Faki Mahamat comme président de la commission après 2 mandats de 4 ans. Clotilde, vous avez assisté à sa prise de parole. Quels ont été les moments saillants?
Comme à son habitude avec son franc-parler, Moussa Faki Mahamat a évoqué les limites de l'UA et de ses pratiques qui entament gravement la crédibilité de l'organisation. En particulier au Conseil de paix et de sécurité, cet organe clé dédié à la résolution des conflits et qui a le pouvoir de prendre des sanctions, il a estimé que les décisions prises par le CPS étaient parfois considérées avec désinvolture et négligence par les États membres et que ça ne pouvait plus durer. Autre point important, il a évoqué les 6 pays suspendus par l'UA à cause des prises de pouvoir par les militaires, une situation qui dure depuis plusieurs années maintenant. Il a donc posé 2 options qui se présentent à l'Union, soit abandonner les principes qui encadrent aujourd'hui cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et à les adapter aux réalités nouvelles, a-t-il dit.
Clotilde Moussa Faki Mahamat en a profité pour faire le bilan de son double mandat.
Oui, il n'a pas manqué de défendre les aspects positifs de son bilan, en particulier sa bonne gestion de la crise du Covid-19, rappelant les avancées faites pour la santé sur le continent, comme par exemple la création de l'Agence africaine de médicaments. Il a rappelé le renforcement aussi du partenariat avec l'ONU et il a remercié très chaleureusement le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui était présent. Le successeur de Moussa Faki devrait donc être connu cet après-midi après un vote. 3 candidats sont en lice et cela s'annonce serré.
Clotilde Hazard en direct d'Addis Abeba. Pour refermer ce dossier, j'ajoute cette déclaration du ministère français des Affaires étrangères qui appelle à l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 sur Bukavu. Et le retrait sans délai des forces rwandaises est également demandé par la diplomatie française. Au Burkina Faso, confronté à la menace djihadiste depuis bientôt 10 ans, le gouvernement se déclare préoccupé par la multiplication des messages et discours de haine en ligne qui attisent la violence et la division. Dans un communiqué diffusé hier, le ministre de la Sécurité prévient les auteurs de ces messages s'exposent à la rigueur de la loi. Tolérance zéro annoncée, reste à savoir si et comment les autorités passeront de la parole aux actes, Amélie Tulet.
Le commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, dit avoir constaté que des messages à caractère haineux faisant l'apologie de la violence, de la stigmatisation et de la division sont diffusés sur les réseaux sociaux. Certains internautes y appellent ouvertement à l'extermination de certaines communautés en les qualifiant de terroristes. Ce type de discours met à mal la paix et la cohésion entre Burkinabés, peut-on lire dans le communiqué du ministre de la Sécurité. Il rappelle que les auteurs d'incitation à la haine, à la discrimination ou au conflit entre communautés s'exposent à des sanctions. Le ministère prévient que le principe de tolérance zéro sera appliqué face à ceux qui cherchent à semer la discorde et à saper le combat collectif contre le terrorisme. Mais si message de haine il y a, cela provient d'activistes qui disent soutenir le régime en place, souligne un spécialiste des médias en ligne. Il ajoute que personne dans ce pays ne peut diffuser un message à caractère violent s'il ne bénéficie pas de la protection du régime.
Amélie Tulet, au Nigeria, il a beau être chef des armées, il s'est vu refuser son visa pour le Canada. Le général Christopher Moussa a indiqué qu'il devait participer à une cérémonie en l'honneur d'un vétéran de guerre outre-Atlantique. Eh bien, il n'a pas pu s'y rendre. Le Canada a refusé, ce qui fait du bruit dans la capitale nigériane, Lisa Fabian.
C'est lors d'un discours devant les élèves d'un institut d'études de sécurité d'Abuja que le chef des armées a révélé qu'il n'avait pas pu voyager au Canada faute de visa. « Nous étions invités pour une cérémonie en hommage aux vétérans de guerre », a expliqué le général Christopher Moussa. « La moitié de notre équipe a pu partir. Quant à moi et aux autres, nous n'avons pas obtenu de visa ». Cette déclaration a visiblement fâché Nour Ibadou, le conseiller sécurité du président Bola Tinubu, qui participait au même événement. Dans son propre discours, celui-ci a estimé que le rejet du visa du chef des armées est un événement douloureux et irrespectueux pour le Nigeria. Les Canadiens peuvent aller en enfer, a ensuite lancé cet influent conseiller de Bola Tinubu. Une sortie peu diplomatique qui a parfois agacé. Un ancien gouverneur a par exemple estimé que cette affaire aurait dû être gérée directement par le ministère des Affaires étrangères. Ce vendredi, l'ambassade du Canada à Abuja a réagi succinctement, indiquant être au courant des informations en lien avec un voyage d'officiel au Canada, tout en expliquant ne pas pouvoir commenter plus sur les demandes individuelles de visa.
Lisa Fabian, retour en RDC pour la page sport. Malgré le contexte, le championnat de première division redémarre ce week-end avec le début de la phase retour. C'était le souhait de nombreux clubs, notamment pour des raisons financières. Alors, plus de 3 mois après leur dernier match, les joueurs de Lubumbashi Sport vont retrouver les terrains tout à l'heure face à leurs voisins du TP Mazembe. Reportage de Pascal Mangala.
Plan de fortune, c'est comme ça qu'on peut qualifier le temps de préparation dans lequel s'est inscrit Lubumbashi Sport, à en croire son entraîneur Ilunga Mukadi.
100 jours sans jouer, l'automatisme, ça va manquer. Mais on a cherché des matchs de préparation. Nous croyons que les petits ont quelque chose dans les jambes.
Mais jouer Mazembe en ouverture de la phase retour a toujours un goût particulier, au point de faire oublier aux joueurs les difficultés de préparation. Fernando est un attaquant camerounais des kamikazes.
C'est vrai, même depuis qu'on a arrêté les championnats, on avait beaucoup travaillé. Je pense que tout le monde est en bonne santé. Et le coach aussi nous a demandé de respecter les consignes et rester concentré. On est frais. Si on est ici, c'est pour jouer le match et on est prêt pour jouer ce match.
Pour le président du club, Pichizonde, les multiples arrêts du championnat sont pour lui un gros cauchemar.
Parce que je finance cette équipe avec l'épargne de mes propres enfants. Et c'est dur, je n'ai rien obtenu, même pas un dollar. Ça c'est triste, mais mon objectif c'est d'investir sur le capital humain, dans le potentiel de la jeunesse. C'est ça qui me motive.
Pour d'aucuns, Lubumbashi Sport peut tout de même faire valoir du haut de ses 96 ans d'existence son statut de vieille dame de RDC pour rivaliser d'ardeur avec Mazembe. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Et comme les choses sont bien faites, coup d'envoi juste après cette édition à 13h TU.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Pour l'heure, il est 12h46 en temps universel, samedi 15 février. Merci de rester avec nous pour la partie magazine. À la une de nos confrères de Jeune Afrique, deux entretiens présidentiels. La semaine de Jean-Baptiste Placa consacrée à la différence de réaction des classes politiques congolaises et sud-africaines face à leurs crises respectives. Et puis vous écoutez la radio, vous entendrez parler de radio avec la chronique Un mot, une histoire de Lucie Bouteloup, mot choisi par une grande voix des RFI et je n'en dis pas plus. La une de Jeune Afrique avec François Soudan, son directeur de la rédaction. Il est interrogé par Catherine Potet. Au sommaire, deux entretiens avec les présidents angolais et rwandais.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
C'est vous qui avez interviewé ces deux chefs d'État, l'angolais João Lourenço et le rwandais Paul Kagame. Commençons par le président angolais, le président en exercice de l'Union africaine. Quelle est sa position? Que vous a-t-il dit?
Alors, il nous dit deux choses à ce propos, le président angolais, dans cet entretien qui, par ailleurs, porte sur beaucoup d'autres sujets, hein, Catherine, notamment sur le fait qu'il ne briguera pas un troisième mandat en 2027, c'est important. Alors, il nous dit d'abord qu'après pratiquement deux années difficiles, passablement frustrantes, en tant que médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit, il va maintenant qu'il s'apprête à prendre la tête de l'UA, passer la main sur ce dossier à un ou d'autres chefs d'État. Et le second point concerne la solution au conflit. João Lourenço n'en voit pas d'autre que le triptyque retrait des troupes rwandaises, neutralisation des ministres FDLR, négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Mais sur son dernier aspect, qui est particulièrement sensible, comme on le sait, le président Lourenço demande à Félix Tshisekedi de s'inspirer de l'exemple de l'Angola. Nous avons, dit-il, connu une longue guerre civile et pour y mettre fin, nous avons parlé, nous avons négocié avec toutes les parties prenantes. On a négocié avec les forces sud-africaines du régime de l'apartheid qui étaient présentes sur notre territoire et on a parlé, on a négocié avec ce qui était un petit peu l'équivalent du M23, ce qui était un peu, c'est-à-dire l'UNITA de Jonas Savimbi, soutenu par l'Afrique du Sud. Pour résoudre un conflit opposant les fils d'un même pays, dit-il, il n'y a pas d'autre solution que de se parler.
Voilà donc pour le président en exercice de l'Union africaine. Autre acteur, cette fois-ci directement partie prenante au conflit, le président rwandais Paul Kagame, que vous avez également interviewé. Première question, toute simple, reconnaît-il la présence de ses troupes sur le terrain?
La reconnaissance, elle est implicite, hein, mais elle est claire. Nous sommes impliqués, bien entendu, dit Kagame. Nous sommes en réalité depuis 30 ans, depuis que ce problème existe. Nous avons conclu au moins 5 accords avec le gouvernement congolais depuis 2007 et aucun n'a été respecté. Les milices génocidaires sont toujours présentes. Dès lors, devrions-nous simplement nous taire et ne pas agir? Reconnaissance aussi, Catherine, cette fois-ci explicite, du soutien au M23. Un groupe qui, dit-il, ne fait que réclamer le droit à l'existence d'une population à qui l'on reproche d'être composée de Tutsis et que l'on veut expulser au Rwanda, alors que ça n'est pas le Rwanda qui les a amenés au Congo, c'est l'histoire de la colonisation et du tracé des frontières. Et interrogé sur le point de savoir s'il partage les objectifs politiques de l'Alliance Congo et du M23 qui réclame, comme on le sait, le départ de Félix Tshisekedi du pouvoir, la réponse de Kagame est la suivante: je peux comprendre ce qu'ils expriment.
Paul Kagame qui s'exprime également sur l'éventualité de sanctions internationales contre le Rwanda. et il n'y va pas par quatre chemins.
Ah non, on est là dans du Kagame pur jus, hein, tranchant, intransigeant, d'autant plus offensif qu'on cherche à l'isoler. Des pays, dit-il, dont certains font partie du problème, et il en cite deux, ex-colonisateurs, Belgique, Allemagne, me demandent me menacent de sanctions alors que je me défends et ils pensent pouvoir m'intimider avec ça. Soyons clairs, si je dois choisir entre faire face à une menace existentielle et être confronté à des sanctions, je prendrai les armes pour affronter la menace sans tenir compte des sanctions. Et Kagame prend en exemple l'histoire d'une femme pendant le génocide de 1994. Avant qu'il ne la tue, raconte-t-il, ses bourreaux l'ont sommée de choisir la façon dont elle allait mourir. Sa réponse a été de leur cracher au visage. Alors, on le voit, Catherine, leur n'est pas encore, et c'est un euphémisme au dialogue. Encore moins à une rencontre Kagame-Tshisekedi, une rencontre dont le président rwandais dit d'ailleurs ne pas percevoir l'intérêt, si elle se résume, dit-il, à serrer des mains et à faire le spectacle devant les caméras.
Merci François Soudan. Ces interviews de Paul Kagame et João Lourenço sont à retrouver sur jeuneafrique.com.
Bientôt 13h51 à Paris, c'est l'heure de retrouver notre éditorialiste Jean-Baptiste Placa. Alors, Donald Trump, pour sanctionner une loi sur l'expropriation de certains propriétaires afrikaners, suspend l'aide des États-Unis à l'Afrique du Sud. Et à la surprise générale, toute la classe politique du pays, y compris l'Alliance démocratique, opposée à cette loi, se mobilise derrière Cyril Ramaphosa en dénonçant une désinformation propre à entacher l'image de leur pays. Jean-Baptiste, comment expliquer le contraste avec la RDC où là les principales formation de l'opposition accablé cette semaine Félix Tshisekedi pour sa gestion de la guerre dans l'est du pays.
La conscience qu'ils ont de leur responsabilité vis-à-vis de la nation est peut-être ce qui distingue la classe politique d'Afrique du Sud des politiciens de nombreux pays où beaucoup ramènent tout à leur rancœur personnelle, à leurs intérêts immédiats. En RDC, certains ne conçoivent l'opposition entre adversaires politiques qu'en animosité incurable. En Afrique du Sud, pour préserver l'essentiel, ils savent taire à l'occasion leur dissension. Même du temps de l'apartheid, tous les Blancs n'étaient pas des partisans bornés du racisme d'État. D'ailleurs, les extrémistes afrikaners ont décliné l'offre d'asile de l'Américain, un président rétif aux étrangers qui envahissent son pays, et d'une si soudaine hospitalité. Sa logique est indéchiffrable ou trop explicite.
Qu'y a-t-il de trop explicite dans cette offre ?
À quoi, à qui la fait-il? À leur condition de persécuter ou à leur couleur de peau? En Afrique du Sud, la dimension raciale de la question de la terre est telle que l'on a dû constitutionnaliser la nécessité d'un rééquilibrage décent. 72% des terres agricoles appartiennent à 8% de Sud-Africains blancs. Certains en possèdent tellement qu'ils en laissent en jachère ou en garantie bancaire. 30 ans après la fin de l'apartheid, le statu quo était intenable. Les expropriations qui transforment Donald Trump en défenseur des droits de l'homme ne visaient qu'à leur reprendre les terres non exploitées. Sauf que le président des États-Unis, tel le promoteur immobilier qui ne peut s'empêcher d'être, salive devant chaque hectare, alors que l'on attend du leader du monde libre d'oublier celui où prévalaient les méthodes d'antan des milieux d'affaires new-yorkais avec les Bernard Madoff et autres personnages convaincus que l'essentiel est de prospérer à la manière d'un Charles Ponzi escroquant de nouveaux clients pour rémunérer les précédents. La question de la terre en Afrique du Sud est bien trop sensible pour accepter que Donald Trump s'en mêle.
Jean-Baptiste, pourquoi cette question reste si sensible, si délicate ?
Sans doute parce qu'elle renvoie sans cesse au piège infernal de la responsabilité initiale. Qui donc le premier a exproprié qui ? Nelson Mandela, magnifié notamment en Occident pour son leadership tolérant, a laissé beaucoup d'amertume chez les siens pour n'avoir pas osé restituer leurs terres aux communautés noires à la fin de l'apartheid. Même Robert Mugabe a dû s'y prendre par étapes avant de confisquer leurs terres aux Blancs du Zimbabwe au début des années 2000. Durant les 14 semaines passées en 1979 à négocier l'indépendance du Zimbabwe à Lancaster House, la délégation du Front patriotique qu'il conduisait avec Joshua Nkomo a maintes fois menacé de se retirer si elle ne pouvait, en même temps que l'indépendance, restituer au peuple les terres accaparées au temps colonial. Le gouvernement Thatcher au Royaume-Uni et l'administration Carter aux États-Unis leur proposèrent alors d'accepter l'indépendance avec la promesse de leur octroyer dans 5 ans les fonds pour acheter leurs terres aux propriétaires blancs. À l'échéance, Ronald Reagan prétextera de l'orientation marxiste du régime zimbabwéen pour refuser d'honorer la promesse. Mugabe revient régulièrement à la charge, en vain. Aussi choisit-il, 20 ans après l'indépendance, de recourir aux grands moyens avec quelques maladresses. Des manifestants expulsent les blancs et occupent les propriétés. C'est alors que, pointant du doigt Mugabe, Tony Blair invitera le monde à contempler ce qu'est un dictateur sans pitié. Sans doute Mugabe l'était-il, mais était-ce vraiment là la question ? Une belle diversion en tout cas.
La semaine de Jean-Baptiste Placard, retrouvez quand vous le voulez sur RFI.fr. Qu'est-ce que les mots nous évoquent ? Comment résonnent-ils en nous ? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup. C'est un mot, une histoire.
C'est un mot très sympathique. Hein. Il est court, il est moderne et puis il représente quelque chose de très utile. Et moi, le matin, en me levant, je m'en sers.
Si sa voix vous dit quelque chose, c'est bien normal, puisque l'homme animé il y a encore peu de temps sur cette antenne des chroniques et des émissions sur la langue française. Il y a d'abord eu Parler au quotidien, et puis bien sûr les mots de l'actualité, et enfin la danse des mots. Au total, ça fait près de 40 ans d'aventure radiophonique à RFI, et comme si ça ne suffisait pas, en parallèle, de nombreuses émissions sur le jazz à France Musique. Bref, autant dire qu'Yvan Amar est une vraie bête de micro. Alors, le 13 février dernier, c'était la journée mondiale de la radio, et pour l'occasion, il a choisi de nous parler du mot qu'il présente dans le dernier ouvrage auquel il a participé. Le livre s'intitule « Du poilu au métaverse, 300 mots qui ont révolutionné notre société et la langue française ».
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Bien, à votre avis, de quel mot aurais-je envie de parler ? Bien sûr, du mot radio, qui est vraiment un mot du XXe siècle. Et parce que vous le savez, je suis un radioteur. Oh, le mot n'existe pas. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, j'étais ravi la première fois que je l'ai entendu. Un radioteur, c'est celui qui travaille à la radio et qui radote un peu, on va dire ça rapidement.
Alors Yvan Amar, ce mot radio, à première vue, il est tout simple. Pourtant, il est un petit peu plus complexe qu'il en a l'air.
Il est complexe d'abord parce qu'il est tronqué. Au départ, on parle de radiophonie. Et le mot radiophonie, comme le mot radio, peut avoir plusieurs sens. La radiophonie, c'est le procédé qui permet de faire porter une voix ou des sons à des milliers de kilomètres. Mais c'est aussi ce qu'on appelle le poste, c'est-à-dire le poste récepteur qui permet d'écouter ce que quelqu'un vous a dit alors qu'il habite à 10 000 kilomètres. Mais on a fini par appeler l'appareil radiophonique une radio parce que ça allait plus vite, oui.
Donc c'est à la fois le poste, le procédé, mais c'est aussi une image qu'on utilise, par exemple, en médecine.
Absolument, mais à ce moment-là, il s'agit d'une radioscopie, ce qu'on voit grâce à un rayon, et non pas ce qu'on entend.
Alors, le mot radio, on le retrouve dans plein de langues. On le retrouve en anglais, on le retrouve en allemand, on le retrouve même en turc.
En turc on le retrouve. Oh, je ne le savais pas. Oui.
Est-ce que ce côté international participe à votre intérêt pour ce mot ?
Oui, j'aime beaucoup les mots internationaux. Il n'y en a pas tant que ça. Et cet internationalisme de la radio vient peut-être de son origine. Hein. Ça vient bien sûr du latin. Et radius en latin, c'est une tige simplement. Mais c'est devenu la tige dont on se servait pour faire une roue. On imagine tout à fait comment on a eu cette vision du soleil, de quelque chose qui rayonne. Et le mot rayon, le verbe rayonner, sont de la même famille que le mot radio, bien entendu.
En somme, Yvan Amar, vous êtes un homme de radio.
Radioteur un jour, radioteur toujours.
Selon le dictionnaire Larousse, le mot radio est une abréviation de radiodiffusion, radiographie, radiotéléphone, radiotélégramme ou radiotélégraphiste. C'est aussi le poste récepteur de radiodiffusion sonore.
C'était un mot, une histoire. Une chronique de Lucie Bouteloup avec Yvan Amar, grande voix de la radio mondiale que vous pouvez donc retrouver dans un ouvrage collectif paru aux éditions Larousse, du poilu au métaverse, les 300 mots qui ont révolutionné notre société. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, ces anciennes chroniques sont toujours disponibles gratuitement sur françaisfacile.rfi.fr. C'est ça le service public. Fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Benoît Raymond, rédaction en chef Frédéric Gara avec Cécile Périllard. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'informations full day. Et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais. Et c'est aussi ça, la richesse de Radio France Internationale. 30 secondes de pause et on revient.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
Des œufs, du miel, des céréales comme du fondé par exemple avant le lever du soleil, des infusions de quinqueliba. À la tombée de la nuit, pour rompre le jeûne, des dattes, de l'eau, du lait. À quelques jours du début du ramadan, voyons ce dimanche comment nourrir le corps pour laisser l'âme sereine à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde avec Clémence Denavy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.